Hello à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de J'ai peur donc j'y vais. Je suis Steph Bluelips, je suis coach professionnelle et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial podcaston. Le podcaston c'est quoi ? C'est un événement caritatif qui pendant 7 jours rassemble plus de 400 podcasts qui se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif avec un épisode hors série. C'est une belle mobilisation et je suis très contente de pouvoir utiliser la plateforme que m'offre ce podcast pour mettre en avant une asso auprès de vous, de ma communauté. Et pour cet épisode spécial, j'ai choisi d'inviter à mon micro l'association Seuil. Seuil, c'est une association qui permet à des jeunes en difficulté d'aller marcher pendant plusieurs mois, seuls, sans téléphone, avec bien sûr un accompagnateur, pour retrouver confiance en eux et reprendre le pouvoir sur leur vie et sur leur avenir. Dans cet épisode, bien sûr, on va parler des missions de Seuil, des jeunes que l'association accompagne. Ce sont des jeunes qui sortent de prison ou bien des jeunes filles qui sont victimes de prostitution, par exemple, et aussi des bienfaits de la marche sur ces jeunes, bien sûr, mais ça marche pour tout le monde parce que la marche, c'est thérapeutique. Marcher pendant plusieurs mois, c'est une grosse sortie de zone de confort, c'est se dépasser, ça permet d'être fier de soi, de gagner confiance en soi, mais c'est aussi ralentir, c'est aussi déconnecter pour se reconnecter à la nature, pour se reconnecter avec soi, avec son corps, avec ses émotions. C'est revenir à soi pour mieux reconnecter avec nos envies profondes et choisir sa vie. Et c'est ça que Seuil offre à ces jeunes. Et d'ailleurs, la devise de l'association Seuil, c'est « vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie ». Bref, c'est un bel épisode qui, je pense, vous donnera envie d'aller marcher. Et je l'espère aussi, bien sûr, de faire un don à cette belle association, mais je vous en parlerai à la toute fin. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Yves Rantard, vous êtes le directeur de l'association Seuil depuis septembre 2023. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast pour participer à cet épisode spécial. Est-ce que pour commencer, vous pourriez présenter les missions ou la mission de l'association Seuil ?
Déjà, merci de nous avoir invités sur ce podcast. Nous sommes très flattés de pouvoir parler de ce qui nous anime et de notre passion éducative. Seuil a 20 ans, en fait c'est 20 ans. Sa mission, c'est d'accompagner des jeunes mineurs, donc de 13 à 18 ans, confiés par l'aide sociale à l'enfance en France et par la PJJ, c'est Protection judiciaire de la jeunesse. Donc ce sont des jeunes sous main de justice qui pour nous, pour la plupart des jeunes garçons, sortent d'incarcération. C'est-à-dire que c'est un aménagement de peine et qui leur permet effectivement de sortir d'incarcération plutôt que prévu pour marcher 3 mois avec un accompagnant sur les chemins de Saint-Jacques ou en Italie. Alors pourquoi les chemins de Saint-Jacques ? Parce que l'hiver, il n'y a que le chemin de Saint-Jacques qui permet d'accueillir dans des gîtes de pèlerins, contrairement en France où c'est fermé dès octobre, novembre et ça ne rouvre qu'au printemps. Et donc ça permet de bien baliser et de rencontrer aussi dans les gîtes beaucoup de pèlerins du monde entier. En ce moment, c'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, cet hiver, c'était essentiellement des Coréens, du Sud naturellement, qui marchaient sur le chemin de Saint-Jacques. Et donc, du coup, il y a une communication qui se fait non-verbale, j'ai l'impression, entre ces jeunes qui viennent en général des cités et les Coréens et Coréennes. Donc, voilà pourquoi nous partons sur le chemin de Saint-Jacques depuis 20 ans.
Donc, il marche, qu'il pleuve, qu'il vente.
Qu'il pleuve, qu'il neige. À Noël, certains ou certaines d'ailleurs, parce qu'on prend aussi quelques jeunes filles, on en parlera après, on fait des bonhommes de neige après Saint-Jacques de Compostelle parce qu'il y avait de la neige. Voilà, tout à fait. Et donc ils vivent dans des conditions tout à fait difficiles. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent d'assister trop les jeunes quand ils sont placés dans des foyers, ce qui n'est pas faux en soi. Nous, en fait, c'est eux qui décident de partir, c'est eux qui décident de marcher 25 km, 30 km par jour, et en 3 mois, ils réalisent 1800 km. Mais c'est vraiment de leur propre liberté, c'est-à-dire qu'on leur donne la liberté de choisir un séjour de rupture de 3 mois avec un accompagnant ou une accompagnante, et c'est unique en France, ça, de cette prise en charge de 3 mois au long cours de façon individuelle. Et donc, c'est tout à fait intéressant de les confronter à leur liberté dans la réalité de la marche.
Et surtout après une expérience en prison, en lieu fermé, c'est complètement à l'opposé, finalement, de leur donner cette liberté d'être à l'extérieur et d'avancer.
C'est complètement paradoxal. C'est très risqué, mais c'est le risque de la vie. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable aujourd'hui de prendre ta vie en charge et de décider une rupture ? Parce que la rupture, elle se fait réellement sans téléphone portable, donc ça c'est la plus grosse rupture qui puisse exister pour un jeune adolescent.
Surtout aujourd'hui, ouais.
Surtout aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. Et c'est compliqué parce que le jour du départ, il me donne à moi, donc, parce qu'il faut que ça soit très symbolisé, voilà, qu'on donne effectivement au directeur le téléphone pour qu'il puisse se libérer et rompre avec tous les réseaux, avec toutes les pollutions, toutes les toxicités qu'ils puissent voir au fur et à mesure de leur journée, de leur nuit, surtout de leur nuit d'ailleurs. C'est comme une fille qui m'a, quand elle m'a rendu son téléphone portable, elle me disait bah, je vous fais confiance. Je vous donne mon téléphone pour que je retrouve la liberté. Et donc ça, c'est très symbolique, mais c'est très dur pour eux.
Et
Voilà.
j'imagine même pour
Parce
nous.
que c'est la rupture totale, quoi. Effectivement, lorsque je dis ça aux adultes, pour eux, déjà, ça leur met un peu en cause pour dire, bon, moi, est-ce que je serais capable de, pendant 3 mois, de ne plus avoir de téléphone portable? Oui, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Même des jeunes qui sortent d'incarcération ou qui ont des parcours cabossés. Sont tous les jeunes de l'ASE qui ont déplacé depuis quasiment leur naissance, qui sont passés de foyer en foyer. Et donc là, c'est rompre avec toute leur zone de confort. Même si c'est des zones toxiques qui les dégradent, c'est quand même une zone de confort qu'ils connaissent, qu'elles connaissent. Et là, c'est rompre avec tout et partir avec un inconnu ou une inconnue vers un chemin inconnu. Je trouve ça héroïque. Enfin, moi, je suis admiratif de ce que font tous ces jeunes, quoi. Ils sont capables de partir à l'inconnu 3 mois. Est-ce que moi, je serais capable de partir avec un inconnu 3 mois à l'étranger? Je crois pas. Je crois pas. Donc, nous, on prend le risque éducatif de ça. Voilà. Bon, bien sûr, on les accompagne et compagnie. Mais ne serait-ce que ça, le fait de décider de partir à l'inconnu, de quitter ma zone de confort, moi, je trouve ça déjà profondément efficace et éducatif. Après, ils vont au bout ou pas, peu importe. C'est que déjà, ils ont pris la décision de quitter quelque chose et quitter quelque chose qui est essentiel pour eux, quoi.
Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire derrière la création de Seuil? Parce que je sais que le fondateur de l'association, Bernard Olivier, a eu l'idée de Seuil alors que lui-même marchait sur le chemin de Compostelle. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu?
Effectivement, ça incarne vraiment Seuil. C'est le passage de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que Bernard Olivier, qui était journaliste, qui est toujours vivant d'ailleurs, hein. Il a plus de 80 ans, il est encore très vert, plein d'idées, plein de projets. À 60 ans, à sa mise à la retraite du journalisme, il était veuf, il avait des grands-enfants, deux je crois, et s'est senti complètement inutile, mis au rencard de la société, bon à rien, vieux, vieillard, et il a voulu se suicider. Et naturellement, ça n'a pas fonctionné. Mais il était au bout du rouleau, c'est-à-dire que plus rien n'avait de sens pour lui. Il était à la fin de sa vie. Or, il sentait qu'il avait quelque chose encore à vivre, mais il ne trouvait pas. Et un de ses amis lui dit, tiens, voilà, pars sur le chemin de Saint-Jacques. T'as rien à perdre, de toute façon, puisque tu as voulu mourir. Au moins, voilà, si tu meurs, tu mourras sur le chemin. Voilà, mais au moins, essaie quelque chose. Et donc, il est parti sur le chemin de Saint-Jacques, non pas pour des raisons spirituelles, mais pour des raisons de survie, quelque part. Comme beaucoup d'ailleurs de pèlerins qu'on rencontre à Saint-Jacques, on ne part pas à Saint-Jacques de Compostelle par hasard. Voilà, ça faut le savoir. Alors lui, après 3 semaines de marche, il s'est rendu compte que son corps n'était pas un corps de vieillard, mais qu'il a retrouvé la force juvénile, j'allais dire, c'est ce qu'il dit, hein, très, très très bien, et qu'il se sentait en pleine forme. Quand vous marchez effectivement 30, 40 km par jour, bien vous retrouvez une forme physique, mais incroyable, beaucoup plus que dans les salles de musculation, quoi. Voilà. Et du coup, les sens, bah, les 5 sens que vous avez, bah, commencent à s'ouvrir et vous commencez à vous émerveiller de la vie, de l'eau froide, d'un bout de fromage, enfin, et de retrouver vraiment les sensations d'énergie vitale qui étaient en lui, mais qui étaient limitées et parce qu'on l'a mis à la retraite, quoi, tout simplement. Et alors, il a rencontré sur ce chemin une association belge qui emmenait des jeunes délinquants. Il y avait un éducateur pour 2 jeunes. Il les a rencontrés et ça l'a émerveillé. Et de ce fait-là, il s'est dit, voilà, ma vie sera effectivement de créer une association pour prendre des jeunes délinquants incarcérés sur le chemin de Saint-Jacques. Voilà comment est né Seuil. C'est-à-dire que Bernard Olivier a choisi la vie pour la transmettre à des jeunes en difficulté et c'est ce qui l'a sauvé, en fait, profondément. Et donc, nous, on est toujours dans cette démarche de proposer un chemin de vie et de sortir des chemins morbides et un peu criminogènes, quoi, voilà, à tous les jeunes qui demandent. Mais ça demande effectivement une motivation première. C'est pour ça que la procédure d'admission, elle se fait très simplement. C'est le jeune qui choisit de partir. Donc moi, je ne fais qu'accompagner son désir, parce que déjà le désir, c'est essentiel, parce que ces jeunes-là ont plus de désir. Pourquoi? Parce que bah, ils ont tellement été trahis, blessés, martyrisés. Et donc cette souffrance-là, eh bien, elle reprend sens quand vous commencez à marcher. Et c'est dur pour eux de marcher, parce qu'on s'imagine que quand on a 13, 15 ans, 16 ans, on est en pleine forme, ce qui était le cas des générations avant. Parce qu'on jouait au foot, on faisait du vélo, je ne sais pas quoi. Eux, pas du tout. C'est-à-dire que ce sont des sédentaires. Alors, ils sont sédentaires du fait du trafic de drogue et de différents réseaux. Et donc, ils ne sont plus sportifs. Donc, physiquement, leur corps est un corps de vieillard, en fait, même à 15 ans. Et donc, du coup, ils reprennent possession de leur corps par la lenteur du chemin et au quotidien. C'est en fait l'éloge de la lenteur. On en parle beaucoup aujourd'hui, l'éloge de la lenteur. Mais nous, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que 25-30 km par jour, les 3 premières semaines, c'est vraiment une très grande souffrance. Et que les muscles ne sont pas faits pour ça encore. Donc, il faut les préparer. Et c'est là où c'est très compliqué, les 3 premières semaines. Parce qu'ils souffrent dans leur corps. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Alors que tu as choisi librement de le faire. Donc, c'est comment remotiver sur ce que tu as décidé de faire. Et donc, parce qu'on ne peut pas marcher à leur place, quoi. Voilà, y a pas de magie, c'est ta volonté. Et donc, c'est une formation, une rééducation de la volonté pour dire, voilà, tu as choisi, tu peux y aller, mais tu peux arrêter aussi. Et c'est redoutable, ça, d'avoir le choix. Parce qu'ils ont tellement été assistés, tout le temps, qu'ils n'ont vraiment jamais choisi, quoi. Même leur état de vie, j'allais dire, ils sont rentrés dans la délinquance ou ils sont rentrés dans les réseaux de prostitution de façon assez naturelle, en fait, sans choisir réellement. Et c'est là où c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on va leur demander, au seuil, justement, double seuil, au seuil de leur majorité, eh bien, de choisir leur vie. Et que leur vie, ils peuvent la choisir, ils peuvent la rendre belle, malgré tous les traumatismes, parce qu'ils sont poly-traumatisés. Hein. Les gens qu'on reçoit à Seuil, c'est ceux qui ont épuisé tous les parcours d'insertion, d'accueil, et ils ont tout mis en échec quasiment. Donc c'est vraiment une dernière bouée de sauvetage, j'allais dire. Mais qu'on leur donne à eux, on leur donne la bouée, après ils la prennent ou ne la prennent pas. Et donc le chemin leur permet de reprendre possession en fait de leur vie, de leur corps, de leurs sensations, de leurs émotions, d'essayer de faire une anamnèse, je veux dire, c'est ce qu'on dit en psychiatrie, une anamnèse, c'est-à-dire reprendre toute leur vie et puis d'en faire un joli bouquet. Voilà. Alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de ronces et ça fait mal quand on prend les ronces, quand on prend des roses et compagnie, on ne sait pas comment les prendre, quoi. Avant de sentir une rose, ben on se pique, quoi. Voilà. Et donc là, ils vont se piquer pendant 3 mois. Mais le but, c'est qu'après, bah, ils puissent faire un beau bouquet de leur vie, quoi. Voilà. Et d'offrir à leurs parents, après 3 mois, ce bouquet. Et ça, ils sont très fiers. Il y a un jeune qui disait, je suis parti comme un blaireau et je suis revenu comme un héros. Et c'est vrai, parce que sur le chemin, comme ça, il est très connu, eh bien, ils sont félicités, ils sont admirés. Mais pour une fois, ils ne sont pas admirés pour ce qu'ils font de mal, ou je sais pas. Ils sont admirés par ce qu'ils ont fait. Voilà. J'ai fait 1 800 km,
Pour
quoi.
leur
Et
courage.
c'est moi qui l'ai réalisé. C'est la première fois qu'ils vont être valorisés pour ce qu'ils font dans la durée. Parce que 3 mois, aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Parce qu'on zappe tout le temps, on a envie de faire des choses tout le temps, à droite et à gauche. On ne se pose pas. Là, on se pose tous les jours. Et tous les jours, il faut repartir dans le pluie, dans la neige, en ce moment, avec les chaussures mouillées. Mais c'est héroïque ce qu'il.
Je rebondis sur ce que vous disiez sur la lenteur. Je trouve que c'est particulièrement difficile aujourd'hui. On est dans une société où tout va vite, on a l'information vite, on veut aller, que ça aille vite. Et tout est comme ça. Et donc, je trouve que ça, c'est particulièrement difficile de changer complètement ça et de partir à l'opposé et d'être dans cette lenteur. Et je pense que pour beaucoup, et je m'inclus moi-même dedans, on est tellement stimulé, tellement en train de faire des choses, tellement en train de penser à des choses, de créer des choses ou de recevoir de l'information constamment par nos téléphones, par l'ordinateur, etc., que se retrouver dans cette position de rien, où on, finalement il y a toute la place pour nos pensées. Et d'ailleurs, je lisais dans un des journaux d'un des jeunes qui a bénéficié, le fait d'être confronté à ses pensées, c'est quand même pas évident. pour n'importe qui, on a souvent tendance parfois à vouloir éviter des pensées difficiles. Ou... Et là, le fait de se retrouver seul face à ces pensées, où on a tout le temps de penser, ça doit être aussi un sacré défi.
C'est un gros défi et ça peut être explosif aussi. Ça peut être explosif parce qu'effectivement, si vous relisez toute votre vie, surtout quand vous avez été traumatisé, ça peut être explosif. Donc, on peut faire un déni. Et c'est pour ça qu'ils font très souvent un déni, en fait, de toute leur vie. Mais que là, ils sont obligés, non pas de façon extérieure, mais par la solitude, par le silence, parce qu'il y a des moments de long silence sur la marche. Ça, ils ne sont pas habitués à ça. Mais après, ils le demandent. Enfin, c'est très anthropologique, en fait. C'est-à-dire qu'on revient à l'essence même de ce qu'est une personne et qu'on a oublié, effectivement, par la surinformation, par les réseaux, par tout ce qu'on reçoit. C'est que l'homme, il a besoin de solitude pour rentrer en altérité, quoi. Et c'est pour ça que la marche, elle est profondément thérapeutique pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on se retrouve soi-même pour après rentrer en relation. Mais tant qu'on ne s'est pas retrouvé soi-même, on ne peut pas rentrer en relation réelle. On ne peut pas créer une amitié où on se donne et on reçoit. C'est-à-dire que là, c'est apprendre à se recevoir tel qu'on est. Et déjà, c'est compliqué d'apprendre à se recevoir. Parce qu'une fois qu'on se reçoit, est-ce que je vais aimer ce que je suis devenu, quoi? Et ce n'est pas évident, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses très belles dans leur vie. Il y a beaucoup d'obscurité, beaucoup de blessures, beaucoup de traumatismes et un manque d'amour essentiel, quoi. C'est je suis cette personne-là aujourd'hui, je l'accepte et je peux aujourd'hui créer mon propre chemin, hein, parce que c'est moi et je ne veux pas attendre des autres qui vivent à ma place, quoi. Hein. Et c'est vrai que cette rupture avec tous les réseaux permet ça et permet effectivement de s'émerveiller après de ce que je suis, de ce que j'entends, de ce que je sens, de ce que voilà, d'entendre les oiseaux, de goûter l'eau fraîche d'une fontaine parce qu'on a marché pendant 15 km dans un cagnard pas possible, et c'est mieux que tout ce qui est Red Bull ou je sais pas quoi. voilà, enfin de redécouvrir l'essentiel de ce qu'est une vie d'un jeune ou jeune adolescente au seuil de sa vie adulte, quoi. Oui, c'est une chance, c'est une très belle chance que seuls leur proposent. Ça, ils en sont conscients quand même. Oui, il y a un chat.
Pour les auditeurs qui ne voient pas le chat, il est très beau.
Et donc voilà, c'est vraiment un chemin de revitalisation, quoi, ou de vitalisation, parce que pour certains, c'est la première fois qu'ils vont sentir des sensations naturelles et pas artificielles. Donc c'est vraiment ça, le confronter à la nature même de ce qu'on est, à la nature, environnante, quoi. Enfin, tout ça, c'est la magie du chemin. Voilà, comme on dit, c'est vraiment magique le chemin. Mais ça passe par des souffrances. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme on est confronté de plus en plus à des problèmes de santé mentale, et donc on a une pédopsychiatre qui travaille pour Seuil, qui voit les jeunes avant qu'ils partent, et qui peuvent aussi les accompagner tout au long du chemin, même en ayant un traitement. C'est-à-dire qu'on prend aussi sur le chemin des jeunes qui ont des traitements psychiatriques, non pas schizophréniques, hein, mais voilà, pour stabiliser leurs humeurs et nerveux. Voilà. Et donc ça, pour nous, c'est très important de pouvoir les emmener sur le chemin, parce que c'est profondément thérapeutique. C'est un cabinet à ciel ouvert, et donc ça, c'est bien.
Alors aujourd'hui, ce sont 35 marches que l'association organise chaque année.
Exactement.
Et cette méthode, qui est assez unique en France, a été reconnue. D'ailleurs, Seuil a été agréé lieu de vie et d'accueil en 2014. Et aujourd'hui, c'est une méthode qui est imitée à l'étranger, en Italie par exemple, et même en Corée du Sud.
Oui.
Parce que peut-être c'est pour ça. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas.
Moi non plus. Mais a priori, oui. A priori, oui.
Qu'est-ce qui fait que la marche sur, vous en avez un petit peu parlé, mais que la marche comme ça sur une longue période, parce que je pense que c'est bénéfique pour ces jeunes et pour tout le monde en général, qu'est-ce qui fait que la marche sur une longue période est une expérience aussi transformatrice? Qu'est-ce qui fait que ça fait qu'on gagne confiance en soi et comment ça les aide finalement à devenir plus résilients et à construire leur avenir?
C'est restructurant une marche. C'est-à-dire que quand on marche, même physiquement, quand vous remarchez, vous avez une posture physique qui vous permet de rééquilibrer beaucoup de choses en vous. Mais il faut du temps. Et c'est pour ça que nous, on nous avait proposé des marches de 15 jours, 3 semaines, mais nous, on refuse ça parce que il faut, pour nous faire une rupture, il faut du temps. Et donc, 3 mois, pour nous, ça nous semble vraiment bien. Mais de prendre le temps de sentir son corps. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on ne sent plus son corps. Alors, c'est marrant parce qu'on est dans un monde très, 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 très physique. On montre beaucoup le corps, les corps parfaits de femmes et d'hommes partout. Mais on déconnecte le corps de son cœur, quoi. Donc, c'est vraiment très, très étonnant que la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on va glorifier, admirer les corps parfaits. Et à côté de ça, on oublie ce pourquoi le corps est fait. Voilà. Et donc, c'est retrouver ce mouvement du corps qui est le mouvement de la vie, en fait. Voilà. Donc, mais il faut du temps. C'est l'éloge de la lenteur. Et quand on est sur le chemin, on n'a pas envie d'aller vite, quoi. Voilà. Le but, c'est pas d'arriver. Le but, c'est de marcher. Donc, c'est pas, voilà, je fais 25 km en 3 heures. Non, non, le but, c'est que tu marches une journée entière, que tu contemples, que tu t'arrêtes. Il y en a qui se mettent à dessiner, par exemple, la carte de vœux de Seuil a été faite par une jeune fille qui a dessiné parce que son accompagnante était artiste. Elle a appris à dessiner sur le chemin. Donc là, il faut du temps quand même avant de commencer à apprendre. Et au bout de 3 mois, elle a fait une carte de vœux extraordinaire pour Seuil, avec un âne et quelqu'un qui marche. Et dessous, elle a mis un slogan qu'on aime beaucoup à Seuil, c'est « Ne pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. » Voilà, il faut vivre ses rêves et non pas rêver sa vie. Bah, quand vous marchez, bah, vous ne pouvez pas rêver votre vie, quoi, parce que vous êtes obligé de marcher, quoi. Sinon, vous n'avez pas le gîte qui sera ouvert, et il faut préparer le repas. Donc, on est obligé d'y aller. J'arrête d'être porté par les autres ou d'être porté par quelque chose d'artificiel. Mais là, je suis vraiment dans le concret de ma vie. C'est est-ce que je vais continuer et pourquoi je vais continuer la marche? C'est-à-dire que ça ramène toujours à ma motivation première. Voilà, le choix que j'ai posé quand j'ai voulu partir à Seuil sur le chemin. Et donc, il n'y a pas une journée, c'est peut-être une journée, mais il n'y a pas 2 jours sans qu'on se repose la question. Et donc, c'est quand même très adulte, très responsable, quoi. On leur apprend à être autonome. Et donc, à l'issue de la marche, bah, ils sont autonomes. Et donc, c'est pour ça qu'ils peuvent choisir un parcours d'autonomie en appartement, en studio, avec une insertion, une formation que j'ai choisi et comment pas imposer. Et le but, c'est que ça, ils reprennent leur vie en main et que rien ne doit être imposé. Et c'est pour ça qu'on revient toujours sur le consentement, quelque part. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accueille de plus en plus de jeunes filles victimes de prostitution. Il faut savoir qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes filles qu'on appelle la prostitution 2.0 avec les réseaux. Et ça explose aujourd'hui. Et ça explose. Et c'est compliqué de leur faire comprendre, quand elles sont très jeunes, 12, 13 ans, 14 ans, qu'elles sont victimes de ça. Parce qu'elles disent, mais moi, je fais ce que je veux, mon corps, il est à moi, j'ai accepté, j'accepte. Non, non, tu n'as pas accepté, en fait, foncièrement. Voilà. C'est que tu es victime de tout un réseau, tu es victime de toute une culture, mais que ça te dégrade, ça. Et donc, quand tu marches, eh bien, tu vas réapproprier ton corps, parce qu'il y a un moment, elles ont un déni de leur corps, et heureusement, quelque part, qu'elles ont un déni de leur corps.
Oui, ça les protège.
Ça les protège, bien sûr que ça les protège. Moi, j'ai une petite anecdote incroyable, c'est que avant de partir sur ce chemin, il y a toujours un rite à Seuil, c'est que on se baigne dans l'eau très froide, dans une rivière très froide, surtout en hiver. Voilà. Pour, comment dire, confirmer sa motivation à partir sur le chemin. Parce que je sais que je vais souffrir, mais je montre que je suis capable et que j'ai envie de le faire. Il y avait une jeune fille, c'était en décembre, donc c'est assez récent et il faisait très froid. Et c'était en Bretagne, donc c'était pas dans le sud, c'était en Espagne. Elle est restée 3 quarts d'heure dans l'eau, elle est à 2 degrés l'eau. Sans bouger, sans broncher, sans aucune émotion. Elle aurait pu rester 2 heures. Alors que le responsable de marche, lui, au bout de 10 minutes, voilà, il avait vraiment très froid.
C'est déjà pas mal.
voilà, déjà c'est pas mal. Elle ne ressentait rien. C'est-à-dire qu'il y avait une telle dissociation entre son cœur, son âme, son corps, qu'elle ne ressentait plus rien du tout. Et donc la marche lui a permis de retrouver des sensations, de dire « Ah, ce que je le ressens vraiment dans mon corps. Le froid, le chaud, la souffrance. » Mais c'est vraiment moi, c'est mon corps, je suis mon corps. Et c'est vrai que quand vous marchez, eh bien vous réappropriez votre corps comme quelque chose qui vous appartient, quoi. Je suis mon corps, c'est pas j'ai un corps, c'est je suis mon corps. Donc du coup, il y a toute une rééducation par rapport à ça, c'est que voilà, je suis mon corps et personne n'a le droit de toucher mon corps parce que c'est moi que tu touches, c'est pas quelque chose que j'ai, quoi. C'est pas un avoir, un corps. Je suis mon corps et je suis ce que je suis. Et maintenant, je ne veux plus enfin, être prisonnier des autres, quoi. Voilà, je veux plus être esclave des autres parce que je suis ce que je suis, quoi, avec mon corps. Et mon corps, personne n'a le droit de le toucher, quoi. C'est vraiment se réapproprier ça et se réapproprier le don, qu'on peut faire avec son corps. Voilà, mais que c'est moi qui décide. Et ça, c'est vraiment une problématique nouvelle à laquelle on est confronté. J'ai énormément de demandes. J'ai un tiers de demandes qui viennent des services sociaux pour des jeunes filles dans la prostitution.
Pour clarifier, vous parliez de prostitution 2.0.
On commence toujours par les loverboys. Voilà, les loverboys, c'est leurs petits copains de 15 ans qui en même temps dulent. Mais là, il y a beaucoup moins de risques quand vous commencez à prostituer votre minette, quoi, j'allais dire, je sais pas comment dire, voilà, à ses copains, et puis après on les met sur des réseaux, non pas des réseaux physiques, mais des réseaux, c'est très facile, hein, vous pouvez taper quelques réseaux à Paris, en 5 minutes, vous avez quelqu'un, quoi. C'est hallucinant. Ils louent des Airbnb, et du coup ils passent de Airbnb en Airbnb, mais elles sont esclaves, quoi, vraiment, non pas d'un macro en tant que tel comme avant, mais de leur petit copain, quoi. Voilà.
Frontière est mince.
C'est dramatique, quoi. C'est dramatique. Et ça dure pendant des semaines et des semaines. Enfin, elles sont prisonnières de Airbnb. Il y a même un jeune qui est toujours présent pour éviter qu'elles partent. Et après une semaine, vous imaginez dans quel état elles sont, quoi. Voilà. Et pour gagner très peu d'argent, parce qu'on leur promet. Et en fait, c'est archi faux. Oui, c'est le loverboy qui gagne tout, quoi. Et ça explose, vraiment, ça explose.
Et comment le lien est fait entre ces jeunes filles et vous,
Ah, ça se fait par les services sociaux.
qui repèrent du coup ces...
Absolument, tout
D'accord.
à fait. Et ça se passe dans les foyers, ça se passe un peu partout, quoi. Parce que il y a toujours cette aspiration à être aimé, à être désiré. Au début, ils jouent là-dessous. Voilà, c'est très facile, quoi.
Ben oui, vous parliez de manque d'amour.
Ce sont des proies très faciles, quoi. Il suffit de dire, voilà, mais tu vas voir, tu vas être aimé, compagnie. Du coup, c'est ce à quoi elles aspirent, comme elles n'ont jamais été aimées. Elles savent pas ce que ça veut dire d'être aimé. Et donc, du coup, ils s'imaginent que d'être aimé, c'est ça. Donc, c'est normal. Voilà, je suis une fille, donc c'est normal que ça se passe comme ça, que on soit violent avec moi, parce que c'est ce que je vois, quoi. Et c'est ce que les garçons voient.
Peut-être que j'ai vécu aussi.
Et c'est ce que j'ai vécu en famille, et c'est ce que j'ai vécu avec ma maman, ce que j'ai vécu avec mon beau-père. Et donc la marche, bon, c'est une goutte d'eau, hein, c'est une petite goutte d'eau, mais je vois que c'est très très efficace, quoi, par elle-même, voilà, c'est se réapproprier son corps par la marche.
Eh oui, parce que je trouve ça incroyable de pouvoir se prouver qu'on peut.
Oui?
De persévérer, parce que c'est dur, vous l'avez dit, il y a de la souffrance
Bien sûr.
physique, parfois mentale, etc. Donc se prouver qu'on peut se dépasser,
Oui.
ça donne, en anglais c'est empowerment, ça
Absolument.
donne ce sentiment d'empouvoirment en fait, et de
Exactement.
confiance en soi, de je suis capable de faire des choses, je peux avancer, je peux relever des défis. Et je trouve ça super fort quand jusque-là vous disiez on a un peu été baladé, on n'a pas trop fait de choix,
Bien sûr.
etc. Et là, en fait, je peux. Je trouve ça super fort à cet
Exactement.
âge-là de construire commencer à construire cette confiance et cette résilience qui est hyper importante pour la
Tout à
vie.
fait. C'est une chance incroyable. C'est un luxe, en fait. C'est un luxe de pouvoir dire. C'est moi qui prends ma vie en charge et je suis capable. Voilà. Et je peux m'admirer et me féliciter moi-même parce que c'est moi qui réalise ça. C'est moi qui ai réalisé 1 800 km à 16 ans, 17 ans.
Et ça, c'est fort, et je trouve que ça vient aussi. Vous parliez de manque d'amour et aussi du fait qu'on va chercher ça parfois à l'extérieur, du coup, par n'importe quelle reconnaissance, on va le prendre et du coup, se mettre dans des situations parfois compliquées. Et le fait d'être capable de s'apporter ça, d'être fier de soi, de prendre soin de soi, c'est aussi une manière de se prémunir, je pense, d'abus parce qu'on ne se laisse plus. C'est ce que vous disiez avec ces jeunes filles. En fait, on se réapproprie soi-même.
Tout à fait. Je dis non aux autres et je dis oui à moi. On leur apprend, par exemple, à célébrer les victoires au quotidien. Voilà. Force-toi, au début, c'est quand même fou quand on y pense. Il faut se forcer au début à célébrer les victoires. Alors que c'est naturel, normalement.
C'est ce que je dis tout le temps sur ce podcast. Donc ça m'a beaucoup parlé, je pense, aux personnes qui écoutent, parce que je leur dis toujours, célébrez vos victoires, même les petites. C'est comme ça que l'estime de soi se construit. Sinon, on ne voit que le négatif, on ne voit que nos défauts. Et les victoires, elles passent.
Exactement. Alors qu'il y a une perle au moins par jour, quoi, qu'on peut mettre sur son collier. Et ça, c'est leur apprendre à célébrer les victoires. Ah, tu as fait 25 km, ça a été dur. Tu as une côte comme ça. Eh bien, félicite-toi, quoi. Félicite-toi et fais-toi un petit cadeau. Je sais pas quoi, une fleur. Enfin, bon. Mais voilà, félicite-toi. Eh bien, c'est compliqué. C'est même pour nous, en tant qu'adulte, on a du mal à se féliciter parce que c'est un peu narcissique. Oui, mais justement, ils ont besoin de développement narcissique, quoi. Et pour ça, ça passe effectivement par des petites célébrations. Ne serait-ce que ça, déjà, son estime de soi. Mais on a oublié ça, voilà. Parce qu'on est sur les réseaux, on est dans l'instantanéité.
Et je pense qu'on a aussi l'habitude de chercher cette approbation ou ces choses-là à l'extérieur. Je pense que ça vaut pour n'importe qui de chercher de son patron, de chercher de son partenaire, plutôt que faire ce travail pour soi, parce que c'est plus dur, en réalité, de le faire pour soi que de le recevoir de l'extérieur. Mais le problème, quand on le reçoit de l'extérieur, c'est que c'est fragile et qu'on en est dépendant.
On est toujours déçu. On est toujours déçu parce qu'on vit toujours sur le regard des autres, en fait. Donc, si le regard des autres a changé, bah, toc, moi, ça me détruit encore plus, quoi. Donc, mais c'est vrai, c'est très. Oui, c'est un chemin de sagesse, j'allais dire. C'est un chemin d'acquisition d'un art de vie, d'une philosophie de vie, de dire voilà, j'arrête de vivre pour les autres, mais je vis pour moi. Ça paraît facile comme ça, mais c'est tellement rare, quoi. Même dans le monde adulte, c'est tellement rare de vivre pour soi et pas sous le regard des autres. Ce que vous dites, très bien, par rapport à son patron, par rapport à ses équipes de travail, par rapport à plein de choses, on cherche une satisfaction extérieure.
Oui, une validation.
Oui, et sachant que ça peut jamais venir de l'intérieur, enfin de l'extérieur, jamais, jamais, parce que l'extérieur, c'est limité. Bah, le regard des autres ou ce que m'a apporté l'autre, ça sera toujours limité, donc ça sera toujours insatisfaisant.
Je trouve ça intéressant ce que vous dites sur la sagesse, parce que je lisais du coup les journaux de marche sur le blog de Seuil, et il y avait beaucoup de phrases que j'ai trouvées très sages, que j'ai trouvées très impactantes, et notamment une qui a été écrite par un jeune, son initiale c'est F, et qui m'a beaucoup touchée et que je voulais partager pendant cet épisode. Il écrivait, alors je cite, j'ai aussi remarqué que le poids de mon sac pouvait être comparé à la charge que la vie m'impose sur les épaules et au fil du temps que le poids se dissipe. Et ça m'a vraiment remué cette phrase, ce qu'il a écrit. Je trouve ça super beau et j'imagine qu'il tire énormément d'enseignements, même au quotidien, de petites perles comme ça. Et j'incite du coup les auditeurs et auditrices à lire les journaux. En tout cas, les récits de ces jeunes. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a deux points de vue, celui du jeune et celui de l'accompagnant. Et c'est marrant parfois de comparer aussi leur perception d'un même événement quand ils se prennent un peu le bec, etc.
Tout à fait. Absolument. Je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est les marches au quotidien de Seuil avec des jeunes bien incarnés, réels, et qui disent sans filtre, parce qu'on ne filtre absolument rien. Et donc, on ne fait que les retranscrire sur le blog, voilà, ce qui est envoyé chaque jour. Il n'a aucune obligation d'écrire son blog.
Est-ce que ces jeunes se fixent des objectifs ou est-ce que vous leur fixez des objectifs pour la marche?
C'est eux qui se fixent des objectifs. On leur dit, voilà, qu'est-ce que tu cherches à travers une rupture? Déjà, comprendre ce que veut dire une rupture. Pourquoi tu veux rompre? Avec quoi tu veux rompre? Le mot rupture, pour eux, c'est il faut qu'ils le comprennent vraiment. Pour dire, voilà, je vais rompre, mais rompre de quoi et pourquoi tu veux rompre? Donc, c'est lui qui explique. Qu'est-ce que tu vas chercher? Un, deux, trois objectifs. Voilà. Qui peuvent changer au fur et à mesure de la marche. Donc, le but, c'est qu'ils reviennent sur des choses très, très internes. C'est-à-dire, voilà, je vais essayer de comprendre pourquoi je suis violent. Voilà. Pourquoi je n'arrive pas à maîtriser ma violence. Pourquoi je mets à mal tout ce qu'on me propose. Des choses vraiment ça. Enfin, c'est vraiment des questionnements existentiels, en fait, hein, qui se posent. Et voilà. donc l'objectif après, mais ça peut changer au fur et à mesure des choses. Mais c'est vraiment très, très profond et très simple. Ou alors qu'ils disent, voilà, moi j'ai envie de me prouver que je suis capable, voilà, de ne pas avoir de téléphone. Voilà. Je suis capable de ne pas fumer du cannabis pendant 3 mois.
Ah oui, parce qu'ils n'ont pas le droit de fumer, cigarette ou autre.
Si, ils peuvent fumer des cigarettes.
Ok.
Pour ceux qui fument, oui. Voilà. Parce qu'ils ont un peu d'argent de poche. Pas seulement pour acheter des cigarettes, mais pour acheter des cartes postales. Parce que tous les 10 jours, ils ont une pause. Et là, ils peuvent faire un cinéma, ils peuvent faire je sais pas quoi, avec leur accompagnant. Parce qu'ils ont un budget à gérer par jour. Voilà. Pour le gîte et le couvert, à deux. Et donc, ils négocient entre eux pour savoir ce qu'ils vont acheter comme repas. Nanana. C'est 55 euros par jour, donc c'est pas énorme. Pour le gîte et le couvert. Toute la journée. Donc, s'ils font des petites économies, ils peuvent effectivement aller au cinéma, mais s'ils n'ont pas fait d'économies, bah, voilà, c'est leur apprendre à gérer un peu l'argent.
Ah oui, ça
Voilà.
c'est un vrai point aussi, ouais.
Exactement, tout à fait. Donc, ça, c'est un point effectivement très important en vue d'être plus ou moins autonome, quoi. Voilà. Donc, ils gèrent tout à deux. Et à deux, en plus. Donc, ils sont obligés de négocier, de traiter, voilà, de parler, d'argumenter. Donc, c'est pas non, oui, non, c'est apprendre à mettre des mots. Et ça, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils sont déscolarisés depuis très longtemps. Donc, du coup, sur le plan culturel, ils n'ont pas les mots. Et de ce fait-là, ils réagissent par la violence, par la frustration. Donc, le chemin aussi permet d'apprendre à parler, à argumenter, à décrire ses émotions. Et ça, c'est vraiment la lenteur de la marche qui permet ça. Le soir au gîte aussi, parce que quand on marche 30 km, ça fait combien? 6 heures, 6-7 heures seulement. Enfin. Donc ils ont un temps libre énorme, en fait, le soir au gîte. Et donc c'est là où il se passe aussi des relations éducatives très, très importantes, et voilà, où ils se confinent un peu plus, quoi. Parce qu'on est seul, quoi. On est seul, seul face à l'accompagnant. Il faut bien quand même commencer à parler si on veut acheter des choses. Si j'ai mal aux pieds, si j'ai besoin de massage, si j'ai besoin d'aller chez le pharmacien. Voilà, donc ça libère aussi la parole. Voilà, ça c'est vrai. Ils ne peuvent pas se cacher parce qu'il n'y a pas de portable. Parce que quand on a le portable tout le temps, ben, on se cache en fait. Hein. On n'est pas obligé de parler. Là, si tu n'as pas de portable, là, tu t'ennuies, quoi. Hein. Et donc, tu es obligé de parler. Et l'ennui aussi fait partie du projet pédagogique, quoi. Faire l'expérience de l'ennui. Voilà. Et comment tu vas nourrir ton ennui sans téléphone portable, sans les séries, sans Netflix, sans je sais pas quoi? C'est comment tu vas nourrir ces moments où tu vas t'ennuyer. Et ça, c'est très, très intéressant, parce qu'au début, ils sont perdus, voilà, complètement perdus, quoi. Je ne veux pas m'ennuyer, quoi. Je ne veux pas être seul, c'est impossible. Donc, ils vont chercher des connexions avec ceux qui sont dans les gîtes. Mais du coup, ça les oblige à sortir d'eux-mêmes, quoi, surtout avec des étrangers. Parce qu'il n'a pas la langue et compagnie. Donc, c'est rentrer en soi-même pour après rencontrer l'autre.
Sacrée sortie de zone de confort. Je pense que beaucoup d'adultes auraient beaucoup de mal à faire ce que ces jeunes font, et je trouve ça vraiment admirable.
C'est certain. Bah, c'est un luxe aujourd'hui.
Et
Ce serait un luxe, hein, pour tous les adultes de partir 3 mois sur le chemin. C'est un luxe incroyable, quoi.
comment est-ce que les auditeurs et les auditrices peuvent soutenir l'association au Seuil?
Alors, on peut être bénévole de l'association, on a des correspondants régionaux dans toutes les régions de France, et donc on peut effectivement les contacter, c'est sur le site aussi internet. Et après, financièrement, comme toute association, comme ça coûte très cher une marche, pourquoi? Parce que c'est un jeune, un accompagnant qui est payé quand même, donc ça coûte très très cher. On peut faire des dons, en ligne aussi, c'est sur le site, et ils sont toujours bienvenus, naturellement.
Oui. Et c'est aussi possible de devenir accompagnant, du coup.
Ah, bien sûr. Alors, pour être accompagnant, il ne faut pas être éducateur, pas nécessairement. On a très très peu d'éducateurs. On a vraiment tous les profils. Il faut aimer randonner déjà, que physiquement on aime ça, parce que c'est quand même très dur. Et après, voilà, qu'on soit capable de prendre 3 mois dans sa vie professionnelle ou familiale ou personnelle pour partir pendant 3 mois marcher. Et tout est écrit et le salaire aussi sur le site internet. C'est tout à fait normal que ce soit rémunéré. Et donc, il suffit d'envoyer son CV, sa lettre de motivation. Et si ça vous tente, il faut le faire. Enfin, il y a un moment pour tout. C'est marrant parce qu'il y a des candidats qui avaient postulé il y a 2 ans et qui finalement ne se sentaient pas prêts, qui sont revenus 2 ans après pour dire, voilà, je suis prêt à partir 3 mois à marcher avec un jeune. Voilà. Sans chercher quoi que ce soit, si ce n'est de l'accompagner pas à pas.
Je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode pour que les auditeurs et les auditrices puissent retrouver facilement l'association, etc. Merci pour d'avoir accepté cette invitation. Merci pour tous ces partages. C'était super intéressant.
Je vous remercie.
À bientôt.
Au revoir.
Voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à visiter le site du Podcaston pour découvrir d'autres associations qui ont été mises en valeur sur d'autres très bons podcasts. Et bien sûr, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à faire un don à l'association Seuil pour leur permettre d'aider encore plus de jeunes qui sont au seuil de leur vie d'adulte. Vous pourrez retrouver tous les liens dans la description de cet épisode. Je vous remercie d'avance pour eux et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais. Ciao !